l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Bonjour à toutes et à tous, 12h passées d'une petite minute à la pendule de Présence, et comme tous les jours du lundi au vendredi, c'est l'heure du Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h en direct des studios de Lourdes. Lourdes où le vent a soufflé cette nuit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un de nos émetteurs a un petit peu souffert, il s'agit de l'émetteur d'Argelès-Gazost dans la vallée des Gaves. Du coup, nos auditeurs dans cette belle vallée des Pyrénées ne peut pas nous recevoir, nous nous en excusons et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir remettre en route cet émetteur. Voilà, c'est dit. En attendant, eh bien, dans quelques instants, nous aurons la chronique verte de Benoît Guillard. Il sera en compagnie de Monseigneur Noblot et du Père Jean-Jacques Barrère, du Père de Bourg-de-Bigorre. Le nom va me revenir. Ce sera au sujet de la deuxième édition du pèlerinage des agriculteurs qui va se dérouler à la fin de ce mois. Nous en ferons l'écho un petit peu plus tard également. Nous aurons la chronique littéraire du frère Martin qui nous parlera du livre « Pourquoi rester dans l'église ?». Nous aurons les informations régionales, bien sûr, et puis la chronique de Anne Deslois, la chronique solidaire nous amènera à découvrir la personne de Adeline Tesserinck. Voilà le programme de ce Présence Midi que je vous propose de débuter immédiatement avec le titre des informations de ce jour.
Albi Simon Berthoux, 43 ans, devient le nouveau préfet du Tarn. Il dit notamment vouloir apporter de la stabilité. Pour rappel, il est le 4e préfet du département depuis 2022. À Cambes, dans le Lot, le site de l'entreprise Bodycot, qui emploie actuellement 24 personnes, est menacé de fermeture pour difficultés économiques. La mairie d'Ax-les-Thermes en Ariège installe 12 nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques avant la saison de ski, portant le total à 24 places. Un nouveau centre aquatique Balméo ouvre le 1er décembre, quartier de la Côte Pavée à Toulouse. Au total, l'investissement s'élève à 2 millions d'euros. Le Lavore FC, club de Régional 2, affrontera Rodez, club professionnel de Ligue 2, ce samedi à Albi pour le 7e tour de la Coupe de France devant près de 3500 personnes. Dans le Tarn-et-Garonne, enfin, la 8e édition du Salon du Livre se tient ce dimanche à Castelsarrasin. 35 auteurs seront présents. La romancière Muriel Magellan est l'invitée d'honneur de cette année.
Et nous retrouvons Mathis Santenac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse dans une petite demi-heure pour faire un nouveau point complet sur l'actualité.
Présence à Souillac, 104.8.
Allez, voici la chronique verte de Benoît Guillard aujourd'hui avec Monseigneur Noblot, évêque du diocèse de Saint-Flour, en compagnie du Père Gaby Lagurgue.
La chronique verte.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine est une semaine particulière puisque vous le savez, chers auditeurs de Lourdes, que nos évêques de l'ensemble de la France se réunissent comme chaque année au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Et donc, pas tout à fait par hasard, j'ai sollicité Monseigneur Didier Noblot, évêque de Saint-Flour, mais aussi coordinateur de l'ensemble de l'Église en rural pour la France, parce que inévitablement, nous sommes sur un territoire rural et que pour la deuxième année consécutive, s'organise sur ce territoire le pèlerinage national des agriculteurs à Lourdes. J'ai aussi invité un prêtre que vous connaissez tous, bien sûr, qui est le père Gaby Lagurgue, qui est maintenant dans les baronnies, animateur très dynamique de son secteur et qui participe, qui travaille dans l'équipe de mission rurale du diocèse des Hautes-Pyrénées à l'organisation de ce pèlerinage. Donc, merci d'abord, Monseigneur, d'avoir accepté de nous rejoindre. Et puis merci, Père Lagurgue, d'être à nos côtés. J'ai envie, en termes d'introduction, Monseigneur, simplement vous donner la parole pour nous redire un petit peu, effectivement, en quoi cela consiste et qu'est-ce qui vous fait venir à Lourdes dans ce pèlerinage.
Alors bonjour à tous les auditeurs et à ceux qui vont pouvoir écouter cette émission de Radio Présence. Venir à Lourdes, c'est répondre à un appel. Bernadette s'est mise en route à l'appel irrésistible du Seigneur par Marie pour les agriculteurs aujourd'hui qui vivent de nombreux défis, de nombreuses souffrances, mais aussi de nombreuses joies et qui se réapproprient un récit du monde agricole. Il est une belle aventure que de pouvoir venir déposer tout ça ici à Lourdes, dans le rocher de Massabielle. Et on peut saluer cette initiative locale par Guy de Saint-Vaury et de toute une équipe en Creuse qui petit à petit déploie cette aventure de pèlerinage des agriculteurs et qui déploie et qui propose cette initiative à toute la France et qui, grâce à l'équipe nationale de la mission rurale de la Conférence des évêques de France, vraiment devient un pèlerinage des agriculteurs à Lourdes, enraciné dans une histoire locale et qui s'ouvre à toute la France. Alors bienvenue à tous les agricultrices, à tous les agriculteurs, à tous les paysans, les paysannes, les éleveurs, parce que c'est l'occasion de se rencontrer, de répondre à cet appel, celui auquel a répondu Bernadette, celui auquel répondent aujourd'hui beaucoup d'acteurs du monde rural et du monde agricole, dans ce souci de bien produire, d'accueillir leurs responsabilités par rapport à la terre-mère, non pas comme des dominateurs, mais vraiment comme des jardiniers, des bons jardiniers, comme dirait l'Écriture sainte. Voilà, trois jours, deux jours de pèlerinage vraiment enracinés dans ce que nous offre le sanctuaire de Lourdes, avec le chemin de croix, l'adoration, les eucharisties, le message du Christ à Lourdes, et puis aussi de l'accueil, de la rencontre, du partage des bons produits. Et donc, avec toute l'équipe qui prépare cet événement, je vous attends. Comme évêque accompagnant la mission rurale, je me réjouis de cette initiative.
Merci, Monseigneur, pour cet appel et cette réjouissance. Et Père Gaby Lagurgue, bon, vous êtes le local de l'étape. Déjà l'année dernière, vous étiez présent, vous avez participé à l'élaboration puis à l'animation de ce premier pèlerinage. Donc cette année à nouveau, c'est une équipe locale aussi des Hautes-Pyrénées qui essaye d'accueillir, de préparer cet accueil le mieux possible. Quelques mots peut-être sur cette préparation et puis aussi sur vous, votre conviction, votre vision par rapport à ce pèlerinage.
Merci, bonjour. L'an dernier, c'était une première, je pense, vers le 7-8 décembre 2024. Voilà, c'était un galop d'essai peut-être pour dire que ce monde rural, ce monde agricole est en joie et en souffrance, on le sait bien, avec, comme l'a dit Monseigneur, de multiples initiatives aujourd'hui pour vivre et pour faire vivre le rural et pour en vivre de ce rural et permettre aussi à tous ceux qui y croient encore de vivre, de produire de beaux fruits et de belles récoltes avec de belles initiatives nouvelles aussi, en accueillant surtout dans tout le rural et surtout aussi dans les Hautes-Pyrénées, peut-être un peu plus qu'ailleurs, beaucoup de monde qui est venu d'ailleurs, qui viennent simplement vivre et essayer de prendre une place tout simplement dans ce territoire, dans les baronnies où je suis. Bon, mais c'est cela, enfin, plus de la population a basculé de 50% en moins de 20 ans et ce ne sont pas des retraités qui sont venus, mais des gens qui veulent vivre tout simplement, pas fuir simplement la ville, mais tout simplement découvrir un espace, découvrir aussi une terre nourricière encore, et aussi des relations, et tout simplement un bonheur dans ces Pyrénées.
Alors, cher Père Lagurgue, dans ce contexte et dans cette préparation, peut-être dire aussi à nos auditeurs que bien évidemment, c'est toute la Bigorre qui est invitée à ce pèlerinage. Parce que notre territoire est attaché à sa terre, est attaché à sa culture, attaché à son histoire, attaché à Lourdes. Et aujourd'hui, accueillir le monde rural de toute la France, c'est aussi tous ensemble, c'est-à-dire cette communauté d'agriculteurs du ruraux des Hautes-Pyrénées. Et donc, je profite de votre présence pour peut-être renouveler cette invitation à l'ensemble des habitants de la Bigorre, de notre diocèse de Tarbes-Lourdes.
Je pense qu'il y a actuellement 10 paroisses dans les Hautes-Pyrénées et ce matin justement j'étais avec 5 nouveaux curés, enfin des nouvelles paroisses du diocèse, et je leur ai transmis aussi l'invitation là, parce que ces 5 prêtres, ils sont fidèles de nous, enfin, ou venus en mission ici dans le diocèse, et ils vont relayer un petit peu cette information. Et puis les autres prêtres et les autres curés qui sont là aussi, vont recevoir aussi l'invitation et le développer. Il y a beaucoup de gens qui viennent déjà. Des fois en pèlerinage, le pèlerinage diocésain, mais aussi individuellement, ou venir passer un dimanche, une journée, enfin sans faire beaucoup de bruit, mais c'est bien l'occasion, parce que ce n'est pas uniquement les agriculteurs qui sont actifs maintenant, mais aussi tous ceux qui ont vécu de l'agriculture, tous les retraités, tous ceux qui sont encore là, très proches de toutes ces réalisations, mais aussi de toutes ces difficultés aujourd'hui. Il y aura l'occasion, par exemple, de réfléchir sur aujourd'hui la vie, le suicide principalement dans nos pays, et ça c'est important pouvoir retrouver des gens de toute la France et pouvoir échanger avec eux.
Alors effectivement, vous faites bien de le préciser, dans le programme il y aura bien évidemment des temps de piété comme dans tous les pèlerinages, mais aussi il y aura des temps de rencontres, hein, des temps de dialogue, des agora autour d'un certain nombre de thématiques comme effectivement les fragilités financières de nos entreprises agricoles, le suicide, la maladie, la difficulté de transmission, le défi de l'agroécologie et de l'écologie. Voilà, beaucoup de choses, parce que on peut penser qu'effectivement les agriculteurs, ils vivent une crise profonde. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur et de difficultés à voir l'avenir. Et ces lieux de pèlerinage, c'est aussi des lieux de témoignage au cœur de ces réalités de monde agricole. Et donc, effectivement, cette invitation est importante pour tous. Je donnerai la dernière question à Monseigneur, puisqu'il est à nos côtés, et notamment plus largement voir un petit peu le regard que porte la Conférence d'évêques de France sur un pèlerinage national, notamment ce pèlerinage national des agriculteurs de Lourdes. En quoi c'est important pour les évêques de France et donc les espérances que vous avez au travers de ce pèlerinage?
Alors merci. Effectivement, un pèlerinage des agriculteurs à Lourdes, ça concerne bien sûr les évêques de France, parce que ça concerne les femmes et les hommes qui travaillent sur les territoires ruraux comme agriculteurs, comme paysans. Et donc quasiment tous les diocèses de France ont une partie très rurale, très agricole, et les évêques en France sont très très liés à ce monde-là. Ils rencontrent dans leurs visites pastorales un certain nombre de joies et de défis partagés. Moi, je suis témoin que le monde rural vit un très très grand dynamisme et apporte beaucoup à l'Église. L'Église a écouté, l'Église, les évêques, a écouté ce que vivent les femmes et les hommes du monde agricole. Je veux citer 4 événements qui vraiment marquent. Cet été, il y a eu avec le mouvement rural de jeunesse chrétienne la fête au village. Avec le mouvement chrétien du monde rural, CMR, il y a eu Festi Rural. Il y aura bientôt le 28 février, 1er mars, les journées paysannes à Paray-le-Monial. Et puis là, au milieu de ces 3 événements, le pèlerinage des agriculteurs à Lourdes, c'est dire le dynamisme aujourd'hui de l'Église en lien avec les agriculteurs et les paysans. Moi j'en suis témoin, j'en suis le témoin émerveillé, et l'Église est vraiment touchée, marquée et impliquée dans cette vie avec le monde agricole. Moi je suis vraiment témoin des initiatives et de cette réappropriation d'un récit, d'une histoire de celles et ceux qui vivent le monde agricole sans se faire trop dicter les choses par d'autres. Souvent, on parle beaucoup des agriculteurs, il vaudrait mieux parler avec eux. Et un pèlerinage, c'est l'occasion, à la suite de Bernadette, qui a vécu cette rencontre inouïe avec le Seigneur dans ce dialogue avec Marie. Là aussi, ici, nous serons regardés comme des personnes qui ont du prix, à la suite de Marie, qui regardait Bernadette comme on regarde une personne.
Merci infiniment, Monseigneur. Merci infiniment, Père Lagurgue. Bon, quelques repères pour vous, chers auditeurs. Simplement bien noter que ce pèlerinage se déroulera, commencera sur une phase d'accueil le 28 novembre à partir de 14h. Sera vraiment le déroulement classique du pèlerinage. Ce sera le 29 novembre avec l'accueil des pèlerins à 8h30. Ensuite, l'accueil des pèlerins par les organisateurs à 10h30 et la messe d'ouverture avec Monseigneur Noblot ici présent. Donc le samedi 9 novembre, ce sera bien sûr à la basilique du Rosaire. L'après-midi du samedi, il y aura donc un message porté par Monseigneur Noblot à tous les agriculteurs à l'occasion de cette rencontre du début d'après-midi. Bien sûr, le chapelet à la grotte à 15h30. Et puis, on aura un temps de témoignage avec un maraîcher philosophe qui vient de la Drôme, qui s'appelle Mathieu Yon, et qui sera donc en conversation avec le père Dominique Lang, assomptionniste et journaliste. Et puis, bien évidemment, le soir, ce sera la procession au flambeau. Et le dimanche matin, pour terminer, il y aura le chemin de croix dans la prairie à 9h30, la messe à la grotte à 10h, et un temps de relecture et dresser tous ensemble les perspectives pour l'avenir, pour le 2026, et un déjeuner en commun à 13h30 à l'accueil Notre-Dame. Voilà. Vous êtes tous les bienvenus le 28, 29, 30 novembre au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes pour participer et accueillir les pèlerins de toute la France des agriculteurs à Lourdes. Merci, Monseigneur.
Merci, à très bientôt à Lourdes.
Merci, Père Lagurgue.
Bien sûr, rendez-vous le 29.
Et merci à vous, chers auditeurs, et à très bientôt. Au revoir.
Une émission que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, radioprésence.com. Dans quelques instants, nous retrouvons le frère Martin de l'abbaye de Tournailles pour le livre « Pourquoi rester dans l'Église ?»
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Bonjour frère Martin.
Bonjour chers auditeurs et bonjour à vous Anne-Rose.
Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle chronique littéraire. Frère Martin, vous qui êtes moine bénédictin à l'abbaye Notre-Dame de Tournai, vous allez nous présenter aujourd'hui un nouvel ouvrage. De quoi parlons-nous aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui on parle d'un livre entre guillemets à six voix. Pourquoi rester dans l'église ? Six regards de femmes, notamment de religieuse Xavière. Voilà, il m'a paru important de parler de ce livre qui vient un peu donner une nouvelle actualité au livre d'Anselm Grün qui avait été publié en 2024 au mois de février avec Jean-Guillaume Xéry et qui déjà disait « Pourquoi je reste dans l'Église ?». Ce livre avait été présenté à nos auditeurs de Radio Présence. Ce livre m'a paru intéressant pour peut-être apporter un nouveau regard, parce que la situation a déjà peut-être beaucoup évolué en deux ans, et un regard de femmes, notamment ces religieuses Xavière, engagées dans l'Église, et qui, tout en étant à la fois dans l'accompagnement, dans divers services d'Église, posent peut-être d'autres mots qui pourront mieux vous rejoindre et vous aider.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont, elles disent les choses de manière un petit peu plus ferme, un peu plus directe. Quel regard elles portent ? Qu'est-ce qui change ?
Je crois qu'elles parlent.
Ça a changé depuis deux ans. Qu'est-ce qui a changé ?
Et ce qui a changé, c'est qu'il y a eu d'autres histoires depuis deux ans. L'actualité, malheureusement, a mis en avant des situations difficiles ici ou là. Et je pense que les quelques Xavières là parlent de ce qu'elles vivent dans leur service d'église au sein de leur communauté, et en même temps c'est aussi ancré dans leur expérience spirituelle.
Quand elles disent pourquoi rester dans l'église, quand elles posent cette question, au fond c'est une question non seulement personnelle, mais une question qu'elles posent pour leur communauté, pour leur congrégation. C'est une question à la fois communautaire.
Mais c'est une question que certains de nos auditeurs peut-être vous posez, mais aussi que certaines personnes que l'on côtoie se posent. Et l'intérêt de ce livre, c'est que si je me pose des questions, il va m'aider à réfléchir, à éclairer ma position. Mmh. Et si je côtoie des personnes qui ont quitté l'Église, qui ont pris des distances, eh bien je vais avoir quelque chose à leur dire, et surtout tout en ayant une attitude de respect, d'écoute, et surtout pas de jugement. Voilà.
Ça
me paraît très important.
Alors après, c'est peut-être normal aussi par moment, par période de notre vie, d'éprouver des sentiments peut-être de colère, ou de trouver par moment qu'il est difficile de vivre dans l'Église. Puis ça peut être passager. Enfin, on peut avoir des petits coups de mou et puis ça repart.
Oui, tout à fait. Et peut-être vos propos seraient éclairés par ce que dit Agatha Zelensky. Elle dit que elle parle dans son article des émotions, et elle dit qu'il est très important, ainsi que le monsieur Jean-Marc Liotto, qui au début fait l'introduction, dit qu'il est important de prendre en compte ce qui se passe en soi. Et voilà, une fois que j'ai pris conscience, de bien nommer mes émotions, de les accueillir, mais aussi de les confronter à la raison, et de pouvoir à un moment prendre un peu de distance de ce que je vis. Mais une émotion n'est pas toujours négative, car elle permet de prendre conscience de la distance qu'il y a entre ce que j'attends, de mon désir, de ce que peut-être aussi je rêve, et de ce qui se passe. Et du coup, ça me permet peut-être de faire un chemin, et du moins d'avancer plus calmement, au lieu d'en rester simplement à l'émotion.
L'émotion, ce n'est pas forcément quelque chose d'impulsif qui va nous faire dérailler.
Non, ce n'est pas quelque chose d'impulsif et de négatif, mais si on y réfléchit dessus, et si à un moment on pose un choix, et peut-être pas tout seul, avec quelqu'un, une personne écoutante et appropriée qui peut m'aider, eh bien, je peux essayer d'avancer et de trouver mon chemin. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est l'expérience qui est vécue avec la communauté Fondation, où là, il y a carrément une rencontre sur 2-3 jours, où vraiment des gens qui se posent des questions viennent réfléchir. Et donc, d'abord, le premier point, c'est d'exprimer ce que je ressens, ce que je vis. Et puis après, quelqu'un m'aide à réfléchir et à avancer.
Alors, est-ce que c'est les Xavières qui ont écrit cet ouvrage et qui ont essayé de répondre à cette question, pourquoi rester dans l'Église ? Est-ce qu'elles donnent des bonnes raisons de rester dans l'Église ? Est-ce que vous pouvez nous donner des réponses qu'elles donnent ?
Je crois qu'elles ne donnent pas des réponses toutes faites, mais elles nous invitent, à la lumière de quelques points clés, à nous poser des questions. je crois qu'un point qui ressort souvent, c'est dans Jean au chapitre 6, vous savez, après le long discours sur le pain de vie, c'est voilà, les gens qui ont été surpris, et il y a la fameuse profession de foi de Pierre que tout le monde connaît au verset 48 du chapitre 6. « Mais à qui irions-nous, Seigneur, tu as des paroles de la vie éternelle ?» Oui. Et vous voyez, quand on ressent, si certains d'entre nous ou des personnes que vous côtoyez sont dans une question de doute, voilà, il est bon d'entendre ce passage biblique et de se dire, voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Revenir aussi au fondement de ma relation à Dieu, de ma relation au Christ. Comment est-ce que je prie ? Qu'est-ce qui a été fondateur pour moi ? Sur quoi est-ce que je m'appuie dans ma foi ? Et sur qui est-ce que je m'appuie ? Voilà.
C'est un ouvrage qu'on peut lire n'importe quand et dans n'importe quel
dans n'importe
sens,
quel ordre. Vous avez une table des matières, ordre,
voilà,
et on peut lire.
On peut aller piocher, selon ce qu'on ressent au moment où on ouvre le livre.
Oui, voilà. Ou si on est attiré par tel ou tel titre, voilà, on peut aller lire tel ou tel article dans l'ordre qu'on veut. C'est ça qui me paraît intéressant. Mais je crois que ce n'est pas qu'un livre à lire. Chers auditeurs, prenez le temps de vous poser et aussi de réfléchir et de faire mûrir votre réflexion personnelle.
Voilà, donc c'est plutôt un livre qui va lancer, entamer ou nous donner envie de passer à une autre étape ensuite.
Voilà.
Merci beaucoup, frère Martin. Pourquoi rester dans l'Église ? Un livre co-écrit par Cis Xavier, qui est paru aux éditions de l'Emmanuel, 162 pages, prix du livre 19 euros, disponible à la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournailles. Tout est dit pour aujourd'hui.
Tout est dit, merci à vous et à bientôt.
À bientôt sur les ondes de Radio Présence, frère Martin.
Et cette émission également, vous pouvez la retrouver sur le site de la radio, de radioprésence.com. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée, juste après Jean-Jacques Goldman.
Pas nos mémoires.
Je voudrais vous revoir. C'était Jean-Jacques Goldman sur Présence.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
12h32 à la pendule de Présence. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Excellent appétit à vous tous qui êtes à table. Nous sommes en plein cœur du Présence Midi, ensemble jusqu'à 13h dans quelques instants. La chronique solidaire de Anne Deloye qui sera en compagnie de Adeline Tesserenc que nous avons déjà reçue dans nos studios. Nous parlerons CCFD. Voici le journal de la mi-journée.
Bonjour à toutes et à tous. Simon Berthoux, âgé de 43 ans, a pris ses fonctions de préfet du Tarn en début de semaine. Le haut fonctionnaire succède à Laurent Buchaya et arrive avec l'objectif d'apporter la stabilité. L'homme dit vouloir inscrire son action dans le temps alors qu'il est le quatrième préfet à prendre ses fonctions dans le département depuis 2022. Parmi les dossiers chauds, il évoque notamment le futur projet de l'A69, la crise agricole et la sécurité dans l'agglomération d'Albi. À Cambes, près de Figeac, le site de Baudicotte, installé sur la zone de Quercy-Paul, est menacé de fermeture. La direction évoque notamment des difficultés économiques. L'entreprise spécialisée dans le traitement thermique des métaux emploie à l'heure actuelle 24 personnes. Les salariés, inquiets pour leur avenir, alertent les élus locaux et craignent une décision définitive d'ici la fin de l'année. En Ariège, à Ax-les-Thermes, la mairie installe 12 nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques, soit 24 places au total. La commune renforce ainsi ses équipements avant la saison de ski. Ces nouvelles bornes sont situées avenue de la Griolle, parking Cangranou et parking boulevard Paul Sabatier. Le projet est notamment porté par la mairie en partenariat avec l'opérateur français Electric Charging. À Toulouse, un nouveau complexe aquatique dédié au bien-être ouvre ses portes le 1er décembre dans le quartier de la Côte Pavée. Sous le pavillon de Balméo, c'est le deuxième centre de cette enseigne qui ouvre dans l'agglomération, après celui de Balma. On y retrouvera un bassin de 10 mètres de long sur 5 de large, ainsi qu'une offre d'ateliers aquatiques. Construit sous l'impulsion de 3 kinés, cet établissement aura nécessité un investissement de 2 millions d'euros. À Lavore, dans le Tarn, le club de football local s'apprête à vivre un grand moment. Ce samedi à 16h, le Lavore FC, classé en Régional 2, affrontera Rodez, un club de Ligue 2, pour le 7e tour de la Coupe de France. Le match se jouera au stade Maurice Rigaud à Albi, devant près de 3500 personnes. Une affiche historique pour les Vauréens qui rêvent d'un exploit face aux professionnels. Enfin, la 8e édition du Salon du Livre de Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne se déroulera ce dimanche. 35 auteurs de la région y dédicaceront leur ouvrage. L'événement organisé par l'association Lecture pour tous en collaboration avec la mairie accueille cette année en invité d'honneur la romancière Muriel Magellan. Au programme rencontres, animations pour la jeunesse et échanges avec le public, l'entrée est gratuite et ouverte à tous.
Merci à Mathis Santenac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse d'avoir assuré pour nous ces informations. Le prochain rendez-vous de l'information sur Présence, c'est à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Dans quelques instants, avec Catherine Albrecht, nous écouterons des écrits de Pierre Lecoz, qui a écrit sur notre belle région, l'Occitanie. Mais avant cela, eh bien, je vous propose de retrouver, comme tous les vendredis, dit la chronique solidaire de Anne Deloye en compagnie de son invité.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Parmi les organismes de solidarité qui existent sur notre secteur des Pyrénées, nous parlons régulièrement à l'antenne du CCFD Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Alors aujourd'hui, c'est Adeline Tesserenc, salarié du CCFD Terre Solidaire d'Occitanie, qui est là pour nous en parler. Peut-être que certains de nos auditeurs vous ont déjà entendu, Adeline, puisque on a parlé il y a quelques semaines de votre engagement en Tanzanie comme volontaire internationale. Et puis, vous êtes aussi la responsable de l'espace rencontre, un lieu d'animation rue du Bourg à Lourdes.
Bonjour.
Bonjour Adeline. Alors certains des auditeurs de Radio Présence connaissent bien le CCFD Terre Solidaire, mais avant d'entrer dans le détail de telle ou telle activité locale et régionale, rappelez-nous ce que c'est que cette ONG catholique de solidarité internationale.
Donc le CCFD Terre Solidaire, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, c'est une ONG, donc c'est la première ONG française de développement, dont notre ADN, c'est de travailler avec des partenaires, donc des associations locales à l'international, pour les inciter au développement et non pas à l'humanitaire. Voilà. Et on a été créé par la demande des évêques de la conférence des évêques de France dans les années 60, pour justement que l'Église puisse avoir une part active dans les luttes contre la faim.
Alors précisément, dans les Hautes-Pyrénées et dans le Gers, puisque vous êtes responsable de ce secteur en particulier, quelles sont les missions du CCFD Terre Solidaire? Mais déjà, comment il est organisé? Comment est-ce que, j'imagine qu'il y a des personnes qui en font partie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, le CCFD Terre Solidaire est une ONG de bénévoles, avec gouvernance aux bénévoles. C'est-à-dire que il y a très très peu de salariés. On est sur la région d'Occitanie, on est 3 salariés, donc on est vraiment pas nombreux. Et tout est organisé avec des bénévoles locaux. Après, c'est vraiment chaque territoire qui organise comme il peut. Il y a des endroits où les villes sont grandes, donc il y a une équipe par ville. Il y a des endroits où c'est une équipe diocésaine, où en fait il y a des référents dans les petits villages. Et les référents ensemble, ils se rencontrent et ils essayent de monter des projets de solidarité internationale. Mais c'est pas des projets pour partir à l'international. C'est vraiment la mission propre du CCFD. Se tourne autour de 3 points. Sensibiliser le grand public sur la question de la solidarité internationale, sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, et le faire venir ici et témoigner de ce que vivent nos partenaires, témoigner de ce qui se met en place, témoigner de ce qui marche et de leurs difficultés. Éveiller aussi les jeunes à la culture internationale, éveiller au fait que ce qui se passe à l'étranger, c'est complètement différent de ce qui se passe ici en France. L'autre point, c'est faire du plaidoyer, et donc là, c'est être la voix de nos partenaires vis-à-vis des grandes structures politiques, pour mettre des hauts là quand des lois sont votées sur lesquelles nous on pense que c'est pas à profit de nos partenaires, ou que ça va à l'encontre de la dignité humaine. Et la troisième, c'est de collecter, faire des actions de collecte, parce qu'on a des partenaires, on part du principe que eux savent mieux faire que nous. Par contre, ils n'ont pas toujours les moyens, et donc nous, on va aller sur des partenariats, on va aller apporter des fonds dans leurs associations.
Alors oui, justement, précisons bien, quand vous parlez de partenaires, c'est toujours des hommes ou des femmes qui font partie d'associations, d'organismes locaux, pour justement le développement, la solidarité, l'action pour la paix, enfin, etc., sur place. Donc sur place, en Afrique, en Asie, c'est sur les 5 continents
que... C'est partout dans le monde, parce qu'il y en a même en Europe, en fait. On a certains partenaires
qui sont soutenus en Europe aussi par le CCFD Terre Solidaire.
Voilà. Mais toujours avec la vigilance d'être séparés de leur politique. C'est vraiment des associations locales, des petites associations, c'est pas des grandes choses, c'est des petites associations locales, et dont l'idée, c'est que leurs projets puissent se démultiplier, et qu'il y ait vraiment une séparation avec les politiques, pour être sûr que, en termes financiers, il n'y ait pas des, comme on dit, des bis-bis qui se passent, quoi. Voilà.
Alors, en préparant cette émission, Adeline, vous m'avez parlé de projets ici sur nos Hautes-Pyrénées et aussi sur le Gers, d'une opération TAPSA. TAPSA. Mais qu'est-ce que ça veut dire TAPSA?
TAPSA, c'est transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire.
Oh, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? En gros, le projet TAPSA, ça a été un appel de projet de l'AFD, donc l'Agence française de développement, pour mettre en avant des actions de sensibilisation autour de l'agroécologie, de l'importance de l'agroécologie. En France et dans le monde.
Donc ça veut dire que le CCFD Terre Solidaire a été retenu comme organisation pour porter des projets financés par l'Agence française de développement.
C'est ça.
Est-ce qu'il existe d'autres organismes qui ont été retenus ou c'est vraiment ici en France le CCF des Terres Solidaires qui est l'organisme de référence?
C'est une excellente question. Je sais que le CCF des Terres Solidaires, au niveau de la France, on est 4 grosses régions à avoir répondu à cet appel d'offres. Et donc, on met en place ça. J'en ai pas entendu parler dans d'autres associations, mais je pourrais faire une erreur en disant non, je sais pas.
Alors, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour répondre à cet appel de l'AFD ?
On met en place... en fait, notre mission, c'est de sensibiliser le grand public sur l'importance de l'agroécologie et que l'agroécologie est vraiment au service de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire l'accès digne et autonome à la personne à choisir son alimentation. Ça, c'est vraiment un grand terme parce que la souveraineté alimentaire, elle touche les thématiques de l'agroécologie, c'est-à-dire les questions de la terre, mais aussi les thématiques de migration, puisqu'en fait l'agroécologie, c'est pas simplement l'agriculture biologique, c'est vraiment le lien entre le travail social, le travail humain, la vie, la société dans laquelle on vit, et ce lien qui se fait. En fait, l'agroécologie, c'est le milieu entre nos communautés, notre terre. Et comment est-ce qu'on consomme ? Et donc ce milieu-là, en fait, c'est éveillé au fait que ben on peut peut-être plus consommer des tomates en hiver et peut-être qu'il est vraiment important, là je caricature, mais vraiment important de consommer local, de consommer près de chez soi et de mettre en avant aussi des cultures qui respectent la terre.
Alors, ça veut dire que les animations que vous avez mises en place dans ce type de programme TAPSA, c'est à la fois sensibiliser des paysans ici, des agriculteurs, des agricultrices, mais aussi des consommateurs et peut-être même un public jeune.
Ah, complètement.
Concrètement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?
Alors là, en fait, sur le territoire des Hautes-Pyrénées et de la région Midi-Pyrénées, en Hautes-Pyrénées, ça fait déjà 3 ans qu'ils travaillent avec des agriculteurs locaux. Ils ont fait une vidéo sur ça. Ils travaillent vraiment. Les équipes font plein d'animations de visites des fermes à destination du grand public pour justement faire ce lien entre le grand public et les paysans qui mettent en place des techniques agroécologiques sur leur terrain pour les mettre en avant et dire que ben ça fonctionne. Voilà, et donc et inciter les gens locaux à se dire bah finalement c'est pas beaucoup plus cher si on va les acheter et que on peut ensemble participer à cette évolution là. Et on a aussi au niveau Midi-Pyrénées l'an dernier organisé un grand concours régional de vidéos et donc on a invité tous les établissements avec qui voulaient participer.
Donc des établissements scolaires ?
Des établissements scolaires, collèges et lycées, à réaliser une vidéo de 3 minutes en montrant que l'agroécologie pouvait être une solution contre la faim. Et donc on a, sur toute la région, on a entre 8 et 10 établissements qui ont participé à ce concours. Ils ont fait plein de vidéos et le 10 avril dernier, on a eu la remise du prix et il se trouve que c'est une école de Tarbes, une classe du collège d'un lycée de Tarbes qui a gagné ce concours de vidéos.
Alors, dites-moi, le lien entre ces publics ici, dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers, qui sont sensibilisés par cette action, le lien avec les paysans ou les partenaires que vous avez en Afrique, en Asie ou ailleurs, dans ce cadre de cette opération de transition écologique, agroalimentaire, etc.
Il se fait par plusieurs moyens. En fait, on a des partenaires déjà du CCFD qui travaillent déjà sur cette question d'agroécologie. Là, par exemple, Midi-Pyrénées, on est en lien avec des partenaires du pays des Grands Lacs, donc Rwanda, Burundi et République démocratique du Congo. Et donc, on les fait venir à la période de novembre régulièrement. On a des partenaires qui viennent témoigner. Donc, en novembre dernier, on a un partenaire du Rwanda, Accor Rwanda, qui est venu. Donc, il y en a 2 qui sont venus sur toute la région de Midi-Pyrénées. Et pour le coup, à cette occasion, moi, j'ai pu organiser une rencontre avec les jeunes. Pour parler aussi de comment est-ce que nous on l'envisage là-bas, comment eux ils l'envisagent là-bas, quels sont leur environnement qui leur permet de le faire. On a des échanges comme ça et après qui se fait aussi par visio. Voilà, en visio, on a beaucoup de là, j'ai pu faire une visio aussi avec ces mêmes jeunes, avec ces mêmes partenaires, mais quelques mois après, on se re-rencontre et on rediscute de ce qu'on a appris, de ce qu'on a fait et pour les jeunes en fait, c'est hyper de personnaliser ce sujet-là. Ça permet un engagement personnel aussi qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus qui engage.
Alors je crois qu'Adeline, on vous invitera à nouveau au micro de cette chronique solidairement vôtre, parce que vous allez avoir des choses certainement encore à nous dire. Pour l'instant, eh bien on vous remercie parce qu'on sent que les actions du CCFD Terres Solidaires ici en Midi-Pyrénées, en tout cas en Haute-Pyrénées et dans le Gers, nous permettent d'ouvrir notre regard à la solidarité internationale. Et voilà, bah, longue vie au CCFD Terre Solidaire.
Merci.
Merci à Anne Deslois pour cette chronique. La semaine prochaine, nous serons depuis la cité Saint-Pierre du Secours catholique pour cette chronique solidaire. On se retrouve dans quelques instants avec Catherine Albrecht. Elle nous parlera de Pierre Lecosse. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Argelès-Gazost, 91.9.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants, écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Pierre Lecosse. Pierre Lecosse est un romancier, poète, essayiste, qui a passé une partie de sa jeunesse à Toulouse, où il a suivi des études de mathématiques, puis de philosophie. Mais la découverte de la littérature, les voyages, notamment vers le désert et ses étendues de sable qui dialoguent avec le ciel, ou l'univers urbain, avec ses rumeurs et ses lumières, l'orientent vers l'écriture et deviennent ses sources d'inspiration favorites. Ses premiers textes, des proses poétiques urbaines publiées en 1993 dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française, témoignent de cette imprégnation de l'errance et de la lumière de cette grande ville du Sud qui s'étale sur les deux rives d'un fleuve. Pierre Lecauze est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, romans, récits de voyage, recueils de nouvelles et essais. Il se consacre à la rédaction d'un cycle, L'Europe et la profondeur, dont 15 volumes sont déjà parus. Désormais retiré dans un village de Dordogne, il vient de publier son dernier polardoc, Le tueur de Garonne, ainsi qu'une pièce de théâtre, Soldats et jeunes filles souriants, chez le même éditeur. Il est aussi l'auteur d'un recueil, L'autre versant du jour, qui a obtenu en 2007 le prix Prométhée de la nouvelle. Le grand raffinement de son écriture et sa virtuosité poétique s'expriment ici dans l'évocation d'une promenade le long des quais de la Garonne, un soir d'été. Le soir, un dernier rayon laissait venir une cité d'or au fond de l'espace. Le silence roulait par-dessus les toits comme un océan invisible. C'était l'heure où je ressortais enfin, longeant la courbe frissonnante des arbres du quai. Quelque chose bougeait à peine entre leurs feuilles, quelque chose qui s'était mis en marche du fond du temps et envahissait maintenant les rues. Sans doute n'étais-je qu'un passant, qu'un moment de cette ville, mais un moment incluant aussi l'éternité, l'impensable dimension où les mots depuis toujours sont en route. Et brusquement, c'était comme si le temps s'était entrouvert devant moi, comme si je voyais à travers son épaisseur. En quelles années lointaines avais-je déjà contemplé ces maisons, ces arbres, ce fleuve coulant dans le soir mauve? En quelle autre vie, peut-être, m'étais-je promené tout un été durant dans la même cité fantôme? La faille entre les mondes était là, elle s'ouvrait et se refermait sans cesse, comme une porte qui bat au vent fou, comme un œil rouge qui cligne. Alors je descendais le long des eaux, j'allais m'adosser contre la brique chaude de leur haut parapet, observant comment la lumière qui se retirait faisait tourner le vase sans défaut de la ville. Il y avait toujours un moment où, avant de basculer, la journée semblait s'immobiliser au bout de sa course, faisant miroiter une à une ses facettes de nacre. Tout se rassemble alors dans une ultime bulle de couleurs, une sphère parfaite qui contiendrait le monde et serait contenue par lui. Tandis que la cité se répandait dans le soir, cette bulle paraissait se détacher et surnager au-dessus du temps comme un ballon flottant à la surface des eaux. Ponts, quais, arbres, clochers tremblaient un instant au doigt du vent solaire, puis ils se dissolvaient et le ruban lumineux du fleuve entraînait tout vers la nuit. Seule la poésie, peut-être, m'aurait permis de venir habiter cette sphère d'éternité, où les choses sont enfin là devant nous, ardentes et muettes, comme des fleurs, où elles ne glissent plus entre nos mains, entre nos phrases. Seule la poésie m'aurait permis de voir le rien, l'invisible plan sur lequel prennent place toutes choses et leur contraire. Ville, astre, nuée. Que cela se rassemble et ne bouge plus. Que l'oiseau arrête son vol et les eaux leur élan. Que la parole ne parle plus, qu'elle revienne au silence. Que la pensée ne pense plus, qu'elle s'achève en stupeur. Que tout se taise et se suspende dans l'attente. Que tout s'exhale en un unique poème qui soit le parfum des mondes et des temps enfin consommés, enfin accomplis. Puis que, brusquement, dans la fosse du ciel noir, tombe et roule la tête rose du jour. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée, intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie », inspirant tous mes récits.
Dancing, Christmas front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his Motley Crue. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Et c'est avec cette chanson de Andy MacDonald que s'achève ce Présence Midi, que j'ai eu plaisir de partager avec vous. Je vous rappelle l'heure de la prière cet après-midi, c'est la méditation du chapelet, vous le savez bien maintenant, depuis la grotte de Massabielle, la grotte de Lourdes, un chapelet médité pour toutes vos intentions. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec toute la rédaction française de Radio Vatican pour les informations nationales et internationales en langue française depuis Rome. Je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute des programmes de Présence et un très bon week-end. Bon appétit.
Le Lauragais, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Cette institution occupe une place particulière dans mon cœur, les mots du pape ce matin à l'université.